Chapitre 40.
La parabole des dodos. 13h19.
La roche a des allures de général, dépassée par la tournure imprévue de la bataille. Il se tient debout sur le toit d'un fourgon de police, alors que la brume qui glisse par nappe lui blanchit les cheveux et lui dessine une barbe de patriarche. Les jumelles de vision nocturne à faisceau infrarouge, théoriquement capables d'optimiser les tracts dans des situations extrêmes, pendent inutilement autour de son cou. Une vingtaine de flics tournent, se reconnaissant à peine dans les voiles de brouillard qui s'effilochent lentement, tels des CRS désœuvrés au milieu des fumigènes une fois les manifestants dispersés.
Aja s'approche, accompagné d'un JP visiblement amusé par la scène. Sa désinvolture tranche avec les figures hagardes des autres flics. La roche se tourne vers elle, la dévisage du haut de son perchoir. Il a laissé tomber son armure de diplomate endurcie.
« Manquez plus que vous, Purvis. Vous n'êtes pas censé mener l'enquête à Saint-Gilles, plutôt que de vous fourrer dans nos pattes ?»
D'ordinaire, Aja aurait répliqué sans chercher l'apaisement. Mais le colonel lui fait plutôt pitié, perché comme un coq et caquetant ses ordres à sa basse-cour affolée. Il a déjà dû annoncer en haut lieu, probablement jusqu'au cabinet du ministre, que ce type seul tenant sa fille de 6 ans par la main leur a filé entre les doigts, malgré un déploiement de force inédit dans l'histoire de l'île. Pauvre Laroche, ça sent la mutation au Kerguelen, à Crozet ou à Tromelin. Une BTA rien que pour lui, au milieu des sternes et des manchots.
« Ça vous amuse, Purvis ?»
La capitaine agite le drapeau blanc. « Non, désolé, colonel. Désolé surtout d'avoir compris trop tard le coup fourré que préparait Bélion. » Laroche se baisse, saute du fourgon avec souplesse, testant l'adhésion au sol de ses rangers toutes neuves. Il la joue dure, comme si l'excès d'autorité pouvait réparer le déficit d'efficacité.
« Soyez pas désolé, capitaine, on s'est tous fait baiser. »
Il allume nerveusement une cigarette, puis observe avec étonnement l'hélicoptère orange de JP. Le sigle ICO qui barre la carlingue et le logo de l'association, un échassier en plein vol. Il termine son inspection par un regard étonné sur la chemise ouverte de JP.
« Capitaine, vous avez fait du stop pour monter jusqu'ici ?»« Décidément, les insulaires possèdent des ressources étonnantes. Et je ne parle pas seulement de cet enfoiré de Bélion. »
Un type coiffé d'un képi blanc s'avance, tenant à la main une carte dépliée, froissée par le vent. Des cercles concentriques sont tracés grossièrement au feutre. La roche pointe un doigt et donne des ordres de routine. Déploiement centrifuge à partir du volcan, ratissage systématique, contact radio.
Peine perdue, pense Aja. 100 km² de forêt à explorer. Elle insiste. Vous vous intéressez aux habitants de l'île, colonel ? Si cela vous dit, j'ai une théorie personnelle sur les ressources morales inépuisables des Réunionnais. J'appelle ça le syndrome dodo.
Ah !
La roche observe ses hommes s'éloigner à travers un rideau de tulle dans un grésillement de cigales électroniques. Il tire sur sa cigarette. S'il y a du neuf, il sera le premier prévenu.
D'accord, Purvis. Cela ne peut pas faire de mal. Apprenez-moi quelque chose sur votre île. C'est quoi votre syndrome dodo ?
JP cligne un œil amusé vers Aja. La capitaine ne se fait pas prier.
Les gens sont souvent surpris quand ils découvrent l'île de croiser des habitants qui ne sont pas en vacances, qui n'ont pas de tongs aux pieds, pas de chemise à fleurs ouverte sur un torse bronzé. Pire même, il y en a qui cavalent toute la journée, cravate au cou et dossier à la main, qui pestent dans les bouchons, qui s'agitent comme les plus stressés des Parisiens. Le syndrome dodo, c'est ça. C'est, disons, une petite histoire pour vous faire comprendre pourquoi l'indolence tropicale, le naturel contemplatif des créoles, tous baratins, c'est un cliché. Seulement un cliché. Vous connaissez le dodo, colonel ?
Aja enchaîne sans lui laisser le temps de répondre.
Vous avez au moins vu à quoi il ressemble sur l'étiquette des bouteilles de bière Bourbon. La mascotte de l'île. Pour être exact, les spécialistes l'appellent plutôt le solitaire, ici. Le dodo, c'est le même animal, mais en version mauricienne. Bref, les spécialistes pensent que le dodo ou le solitaire est arrivé sur l'île par le ciel en volant. Il y est resté. Pas fou. La Réunion était un Éden. Une île sans prédateurs. Aucun mammifère. Pas de grands singes, pas de fauves, pas d'hommes. Pas même de serpents ou d'araignées. Le dodo ressemblait à un ibis à l'origine.
Aja montre du doigt l'oiseau gracile peint sur l'hélicoptère de JP, puis continue.
D'après les études, il s'agissait d'une sorte d'oiseau supersonique, fuselé pour traverser les océans. Mais quelques centaines de milliers d'années à vivre dans une île paradisiaque, vous change un athlète interocéanique. Les squelettes retrouvés dans l'île sont en tout point étonnants. Sans ennemis pour vous menacer, pourquoi prendre la peine de voler ? Génération après génération, les ailes de dodo se sont atrophiées jusqu'à devenir des appendices ridicules et inutiles. Pourquoi courir ? Au fil du temps, les ibis élancés sont devenus des oies grasses. Pourquoi se reproduire en nombre ? Les pontes se sont raréfiées. Pourquoi se serrer les coudes ? Les communautés d'ibis ont explosé en milliers de familles solitaires. Les ossements révèlent strictement la même évolution chez les dodos mauriciens, le solitaire réunionnais, le pigeon de Rodrigue.
La Roche écoute la fable d'Aja d'une oreille amusée, tout en guettant avec vigilance la moindre vibration de son talkie-walkie.
Et alors, Purvi ? Que reprocher à ces oiseaux ? Ils découvrent le paradis sur Terre dans ces îles éloignées de tout. Ils se la coulent douce pendant des centaines de milliers d'années. Quant à vos jugements esthétiques sur leur obésité, vos pintades ont le privilège d'être devenus des espèces uniques au monde.
Aja sourit. La Roche n'est pas si stupide, au fond. Simplement, elle n'a pas envie de jouer dans la même équipe que lui. Elle détaille les derniers membres du commando qui s'activent sur le parking du pas de Bellecombe. Pilote d'hélico, tireur d'élite, ingénieur en transmission, tous blancs, sans exception. Aja fixe la Roche droit dans les yeux. Les dodos étaient de grands naïfs qui avaient oublié que le paradis n'existait pas. Nul ne saura jamais combien de milliers ils étaient lorsque les colons ont débarqué sur l'île en 1665. Les dodos n'ont pas fui devant les premiers marins, bien au contraire. Ils avaient même oublié le sentiment de peur. Lorsqu'ils l'ont redécouvert brutalement, il était trop tard. Ils n'avaient plus d'ailes pour voler, plus la force de fuir, plus le courage de s'unir. Les dodos se sont fait massacrer en moins d'une génération. À la fin du XVIIe siècle, dans toutes les mascareignes, il n'en restait plus un seul vivant.
Aja se tait. La Roche crache son mégot. Et la morale, capitaine Purvi ? Je suppose qu'il y a une morale.
Vous avez fait des études, colonel. J'ai pas besoin de vous mettre les points sur les i. Toutes les majorités dominantes, toutes les élites cherchent à vous transformer en dodo. Un poulailler bien sage. Confort, sécurité, paresse. Un programme sur mesure. Les réunionnais qui calculent leur RSA en litres de rhum charrette ne vous diront pas le contraire.
La Roche grimace. JP se marre. Le colonel hésite, puis applaudit des deux mains.
Ok, Purvi. J'ai compris. Dodo, habitant des territoires ultra-périphériques, femme dans la police, même destin, même combat. Merci pour la leçon de géographie. À l'occasion, je serai ravi d'en discuter avec vous. Pour avoir bourlingué dans quelques autres îles d'outre-mer, les Antilles, Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie, vous n'avez pas conscience à quel point votre île est au contraire un jardin d'Éden. Pacifié, presque unique au monde, sans racisme ni tension interethnique.
Aja soutient le regard du colonel, sans confirmer, sans nier non plus. La Roche sourit, hausse les épaules et pose les deux mains sur sa ceinture, façon ranger mais cérébrale, comme sortie d'un film de Clint Eastwood.
Si vous le voulez bien, capitaine, on dissertera de tout cela un peu plus tard. Un détail, je suppose que vous n'avez rien de neuf sur les meurtres de Rodin et de Chantal Letellier ?
Je délègue, colonel. Si j'avais la moindre information nouvelle, vous en seriez le premier informé. La Roche s'en contente et se retourne vers un technicien casqué pendant qu'Aja s'éloigne pour rejoindre JP. Elle vérifie que La Roche ne lui prête plus attention. Il y a une question qui me taraude, JP. À ton avis, pour quelle foutue raison Bélion a-t-il grimpé ici avec sa fille ?
Ça me semble évident, non ? À cause du microclimat. Parce que c'est sur les flancs du volcan que le brouillard est le plus intense et le plus rapide à se lever.
D'accord. Mais si Bélion avait voulu disparaître dans le maquis, il aurait pu lâcher sa Nissan où il voulait et s'enfoncer directement dans n'importe quelle forêt. Bébourg, Bélouve, pleine des lianes. Il n'avait que l'embarras du choix. Sans prendre aucun risque, sans nous donner aucune indication.
Tu penses à quoi, Aja ?
J'ai retourné le problème dans tous les sens. S'il est monté jusqu'ici, il n'y a qu'une explication. Il voulait basculer de l'autre côté du volcan. Par la route du littoral, il n'avait aucune chance. Il se serait fait coincer. Il n'avait qu'une solution, couper par le sommet et tenter de passer à pied. JP réfléchit comme s'il faisait défiler mentalement la carte de l'île devant ses yeux.
Si je te suis, Bélion se rend quelque part entre Saint-Benoît et Saint-Philippe. Ça nous fait bien 60 km de littoral à couvrir.
Trop, beaucoup trop. Surtout que je suis persuadée que, comme à chaque fois, il va réapparaître quelque part pour mieux s'évaporer ensuite. JP lève les yeux. La Roche piétine les cendres du parking avec ses rangers, le téléphone portable collé à l'oreille.
Tu vas en parler au Big Boss ?
Plutôt crever. Les nuages de brouillard commencent à se dissiper à mi-montagne. Aja aperçoit enfin un coin d'océan, plein est. JP, faudra être réactif si Bélion ressurgit. Réactif et rapide. Tu peux me fournir de l'équipement ?
Précise.
Elle hésite, baisse la voix, tire le pilote un peu plus à l'écart. De l'équipement pour descendre 2000 mètres de dénivelé en moins d'une minute. Je te fais pas un dessin. Deltaplane, parapente. JP se pince les lèvres, puis pose les yeux sur les derniers membres des commandos présents au pas de Bellecombe.
Je voudrais pas te faire de peine, Aja, mais si j'accroche ces X-Men à une voile et que je les lâche dans les alizés, ils vont se retrouver au milieu du Dolomieu, grillés comme des moustiques sur un halogène.
Aja cligne un œil vers le pilote et baisse encore la voix. Je te parle pas de ces clowns, JP. Si tu te charges de monter le matos jusqu'ici dans un de tes bahuts, moi, en faisant le tour des brigades de l'île, je peux te fournir une douzaine de collègues expérimentés et diplômés. Le ciel s'ouvre soudain. Le soleil inonde le cratère. JP chausse ses lunettes de soleil d'un geste professionnel.
T'abandonnes jamais, hein ?
Elle rit. Non, mon grand. Syndrome dodo. Je veux pas finir grosse et sans ailes. Bonne à plumer.
La Roche va pas être content.
Le colonel ? Je l'emmerde.
Allô, Aja ? C'est Christos. T'es toujours au pas de Bellecombe ?
Ouais, t'as écouté la radio ? Tu nous appelles pour te foutre de notre gueule ?
Ah, plutôt l'inverse.
Pardon ?
Attendez encore un petit peu avant de dégommer Bélion. Je crois que j'ai déterré un pavé, le genre de pierre angulaire capable de faire s'effondrer une cathédrale.
En clair, Christos.
J'ai des doutes sur l'impartialité du témoignage d'Eve-Marie Nativelle.
Putain, tu me donnes des détails ?
Le sous-lieutenant résume la visite d'Armand Zutor à la gendarmerie, la fuite des Jourdains sur l'île Maurice, la conversation téléphonique avec Graziella Doré, la liste des 7 employés, l'interrogatoire improvisé à l'Alamanda, le récit de Gabin. Aja siffle dans le téléphone.
Putain, comment faire avaler ça au Comgende ? La Roche n'est pas vraiment du genre à modifier ses convictions sur la foi d'un vague lien de parenté entre des témoins créoles pour un accident qui remonte à 10 ans.
Ouais. Mais si tu veux le fond de ma pensée, il y a plus étrange encore. Quand le Comgende a dressé la liste des contacts possibles de Martial Bélion sur l'île pour les mettre sous surveillance, pourquoi n'ont-ils jamais mentionné Aloé Nativelle, son ex-petite amie ? Ils connaissent forcément son existence.
Aja prend le temps de réfléchir sans trouver d'explication.
Je suis bloqué ici, Christos. Bélion peut surgir du brouillard n'importe quand. Mais de ton côté, tu vas faire sauter ta sieste et tu me retrouves Eve-Marie Nativelle avant ce soir.
Facile à dire, ma belle. D'après les autres, elle bosse toute la journée au black chez un gros blanc. Jamais on ne trouvera un créole pour nous balancer son employeur. Aja ne répond pas. Christos n'entend que le vent du piton souffler dans son téléphone. Aja ? T'es toujours là ?
J'ai peut-être une idée, mon grand.
Tu connais un créole qui balancerait la vieille Nativelle ?
Ouais. Laila.
Qui ça ?
Laila Purvi, ma mère.